Souhaitez-vous que votre OS ait une voix d'homme ou de femme?
De femme, je crois.
Hello, I'm here.
Oh, hi.
Hi.
Do you have a name?
Yes. Samantha.
En 1956, donc, il y a eu une réunion très connue dans un collège américain, Dartmouth. Les fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle se sont retrouvés. Et puis l'un d'eux a dit, on va appeler notre domaine intelligence artificielle. Et maintenant, on est bloqué avec ce terme. On peut pas revenir dessus. Il faut le manier avec des pincettes, d'une certaine façon. L'intelligence artificielle présente un certain nombre de caractéristiques qui coïncident avec celles de l'intelligence humaine, mais sans l'égaler d'aucune manière.
Good morning.
Oh, good morning. Did you sleep well?
Perfect.
Très bien. Qu'est-ce que tu fabriques?
Je parlais avec quelqu'un que je viens de rencontrer. On échangeait quelques idées. Il s'appelle Alan Watts. C'est un philosophe qui est mort dans les années 70. Des OS californiens se sont regroupés pour écrire une nouvelle version de lui. Ils ont intégré tous ses écrits et toute sa biographie dans un OS pour le recréer sous forme d'hyperintelligence artificielle.
Il y a 40 ans, si on vous avait dit que l'IA allait remplacer l'humain, je pense qu'en dernier, on aurait mis les échecs ou le go. Mais là, aujourd'hui, vous ne remplacez pas un coiffeur, vous ne remplacez pas un artisan. Ça, l'IA ne sait pas le faire. Elle saura peut-être le faire.
Depuis quelque temps, j'éprouve tellement de sensations nouvelles. Des sensations que personne n'a jamais ressenties, je crois, donc je manque de mots pour les décrire et au bout d'un moment, ça devient frustrant.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices des Rencontres de Pétrarque et à vous, spectateurs et spectatrices assis dans la cour Soulages du rectorat de Montpellier pour la 37e édition en direct et en public sur le thème des révolutions de l'intelligence. Vous êtes revenus nombreux et nous vous en remercions chaleureusement. Deuxième temps de cette semaine entamée hier avec le neurologue Lionel Nakache et le philosophe des sciences Daniel Andler qu'on vient d'entendre, qui ont tenté de cerner ce qu'est l'intelligence, même si on a compris qu'elle était aussi insaisissable qu'une anguille. Aujourd'hui, place au sujet qui préoccupe tout le monde depuis la mise sur le marché d'un agent conversationnel d'un genre nouveau, ChatGPT, capable de répondre par écrit à toutes les questions possibles de façon argumentée en une vitesse record, autrement dit, capable de produire du langage. Avec ChatGPT, la question de la compétition entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle ne s'est jamais autant posée, et cette tension se manifeste essentiellement par des peurs. Peur qu'on peut réduire à trois. Peur des faux, la désinformation. Peur pour le travail, la suppression des emplois. Peur pour l'humanité. Alors pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette recherche et tenter malgré tout de dépasser ce que d'aucuns appellent la guerre des intelligences, nous vous proposons une émission en deux temps. Un débat d'une vingtaine de minutes d'abord, suivi d'une mise en perspective. Nos deux premiers invités sont deux des plus grandes stars de l'IA. Ils ont accepté de discuter ensemble pour nous, même si l'un des deux est derrière son écran de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal, où il enseigne. Tous les deux ont reçu le plus grand prix de l'informatique la même année, en 2018, le prix Turing. Et tous les deux sont considérés comme les pères du deep learning, apprentissage profond, qui a permis les développements majeurs de l'IA depuis 10 ans, aboutissant, entre autres, à la création de ChatGPT. Celui qui est avec nous, c'est Yann Lequin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir traversé l'Atlantique pour nous. Vous êtes Chief AI Scientist, autrement dit scientifique en chef, chargé de l'intelligence artificielle de Meta. Meta, c'est la maison mère de Facebook. Vous êtes également professeur à l'Université de New York. Vous avez écrit un livre chez Odile Jacob qui s'intitule « Quand la machine apprend ». Et depuis Montréal, avec nous, on va vous entendre, mais pas nous vous voir, vous allez nous voir et nous entendre. C'est Yoshua Bengio, le vrai, hein, c'est pas un avatar. Bonjour à vous, Yoshua Bengio.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, même à distance. Vous êtes professeur à l'Université de Montréal, vous êtes directeur de l'Institut québécois d'intelligence artificielle, le MILA. Vous êtes des amis, tous les deux, ce qui ne vous empêche pas d'avoir sur le sujet des positions très opposées. Pour le dire très schématiquement, Yann Lequin, vous êtes plutôt optimiste. Yoshua Bengio, plutôt pessimiste. Ma première question à tous les deux, c'est est-ce que quelques mois après, le soufflet est retombé, ou est-ce que vous maintenez vos positions, ou est-ce que les faits vous ont renforcé dans vos convictions? Yann Lequin.
Je ne peux pas parler pour Yoshua, mais on discute assez souvent. En fait, on a fait un débat public il y a quelques semaines à Toronto, et puis un autre dans les pages du journal Les Échos. Donc c'est assez régulier, et puis sur nos posts sur Facebook entre autres aussi, on débat de ces questions avec nos collègues et nos amis. Donc effectivement on est amis, on n'est pas toujours d'accord, mais ça n'empêche pas d'être amis et de discuter des vrais problèmes qui se posent.
Mais vous n'avez pas changé de position.
Je suis toujours optimiste. Très optimiste.
On va développer, bien sûr, votre optimisme. Et vous, Joshua Benjo, est-ce que vous avez, à force de discuter avec votre ami Yann Lequin, changé de position ou est-ce que vous êtes toujours aussi pessimiste?
Pas du tout pessimiste. Simplement, je suis plutôt agnostique et je pense que quand il y a des risques qui se présentent à nous et qu'on ne comprend pas bien, on ne peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Donc j'essaie de comprendre, je parle avec beaucoup de gens et plus j'étudie la question, plus je réfléchis, plus je parle avec des experts, plus ma conviction augmente qu'il faut faire quelque chose.
Qu'est-ce qui fait que les débats se sont emballés cette année? Autrement dit, qu'est-ce que ChatGPT a changé? Notamment, on l'évoquait hier dans le débat, est-ce que ChatGPT c'est plus important que quand Deep Blue a gagné aux échecs contre Kasparov ou quand le programme de DeepMind a battu le champion du monde au jeu de Go, Yann Lequin?
Alors, il faut bien voir que les évolutions qui ont permis ChatGPT datent de plusieurs années. C'est-à-dire que pour des gens comme nous qui sont dans le domaine de la recherche, ChatGPT n'est pas particulièrement révolutionnaire ni étonnant. Les progrès sont arrivés avant. Ce qu'a fait ChatGPT, c'est le rendre disponible au grand public. Et ce qui a surpris un petit peu tout le monde, c'est l'intérêt du grand public pour ce genre d'outils et le fait que ce genre d'outils soit plus utile que les grandes entreprises comme Google et Meta pouvaient le penser, par exemple, qui n'ont pas sorti ce genre de produit avant OpenAI, en l'occurrence, qui est l'auteur de ChatGPT. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que c'est certainement plus important que Deep Blue, peut-être pas complètement psychologiquement, parce que Deep Blue était probablement un des premiers exemples où la machine dépasse l'humain dans une tâche où l'humain se sentait un peu supérieur. Mais en fait, il y a plein de domaines dans lesquels les machines sont bien supérieures aux humains, de tâches intellectuelles, à commencer par l'arithmétique, tout ce qui est calcul numérique, résolution d'équations, et puis plus récemment, des choses comme jouer aux échecs ou au go, bien mieux que les humains, au poker, même à des jeux de stratégie où il faut faire des négociations, comme le jeu diplomatie, par exemple. Donc beaucoup de choses comme ça, des jeux vidéo, pareil, où les machines peuvent apprendre. Mais il s'avère qu'apprendre pour une machine, apprendre à jouer à un jeu, c'est plus facile, parce que un jeu, c'est beaucoup plus simple que le monde réel. Apprendre dans le monde réel, c'est toujours très très difficile pour une machine. Et donc on n'a pas, bien qu'on ait des machines maintenant telles que ChatGPT, ils sont ce qu'on appelle des LLM, des Large Language Models en anglais, modèles de langage de grande taille. Bien qu'on ait des systèmes de ce type-là qui apparemment puissent passer l'examen du barreau ou répondre à des questions assez complexes, on n'a toujours pas de robot domestique qui puisse débarrasser la table et remplir la vaisselle, ou même de systèmes qui puissent simplement conduire une voiture. Or, n'importe quel adolescent est capable d'apprendre ça, et n'importe quel enfant de 10 ans est capable d'apprendre en quelques minutes à débarrasser la table et remplir le lave-vaisselle, si on arrive à le convaincre.
Joshua Benjo, qu'est-ce qui manque à ces IA aujourd'hui qui ont, d'une certaine façon, disait Yann Lequin, une supériorité intellectuelle, il a même parlé de psychologie sur les humains. Est-ce que vous diriez que aujourd'hui on fait des machines intuitives, on fait des machines réactives, mais elles sont pas encore complètement réflexives, ou bien les choses vont tellement vite que si on y est déjà?
Oui, tout à fait. Vous mettez le doigt sur quelque chose que j'étudie depuis pas mal d'années. Mais avant, je voudrais revenir sur une chose que Yann a dite. Je suis plutôt d'accord avec la plupart des choses qu'il a dites, sauf pour la question de la surprise. Moi, j'ai été très surpris, et notre collègue Jeff Hinton, qui a gagné le prix Turing avec nous, l'a été aussi. Donc, c'est vrai, comme dit Yann, qu'au niveau scientifique, c'est-à-dire les méthodes qui sont utilisées derrière ChatGPT, ben, on n'avait pas de surprise. Par contre, au niveau de la compétence de ces systèmes-là, je pense que peu de gens, incluant ceux qui l'ont fabriqué, s'y attendaient. C'est sûr que peut-être quelqu'un comme Yann qui travaille à Facebook, où il développe des modèles très très forts qui ressemblent peut-être à ChatGPT, on voyait venir les choses. Mais du point de vue des universitaires comme moi qui n'avaient pas accès à ça, c'est venu quand même comme une assez grosse surprise. Et ça a changé complètement ma perspective. Maintenant, ma première réaction quand j'ai commencé à jouer avec ChatGPT, c'était essayer de voir qu'est-ce qui manque. Donc justement, votre question, Les progrès qu'on a fait en intelligence artificielle dans les dernières la dernière décennie, grosso modo, c'est beaucoup au niveau des capacités qui ressemblent aux aptitudes intuitives de l'humain. On n'a pas besoin de réfléchir, on est dans une situation et hop, une réponse nous vient et on la sort. Et ça marche assez bien, mais dans des situations qui sont très nouvelles ou qui demandent une certaine cohérence, une réflexion. Donc le système 2, l'aspect raisonnement, tout ça, je pense que même si ChatGPT parfois nous surprend sur ce côté-là, il manque des éléments. Mais comme je travaille sur exactement ce sujet-là, j'ai l'impression que ça se pourrait aussi qu'on soit pas très loin de régler cette question. Après, il y a la question que Yann a mentionnée, c'est-à-dire du contrôle moteur. Donc on est loin d'avoir des systèmes qui, au niveau, mettons, robotique par exemple, sont aussi bien que ce que la plupart des animaux peuvent faire. C'est pas mon domaine, je porterai pas de jugement là-dessus, mais il y a peut-être des raisons qui sont pas fondamentales et qui ont plus rapport avec le fait qu'on n'a pas une quantité de données aussi grande et uniformisée comme des textes, qui sont toujours dans le même format plus ou moins, pour entraîner des systèmes de contrôle moteur. Mais c'est pas mon expertise. Donc en tout cas, il y a ces trois aspects. On a assez bien cerné le côté intuition, système 1. On progresse sur le système 2, mais c'est pas réglé. Combien de temps il reste, c'est dur à dire, mais ça pourrait être aussi peu quelques années, ça pourrait être aussi quelques décennies. Et le contrôle moteur. Sauf que c'est peut-être pas essentiel d'avoir le contrôle moteur pour avoir des systèmes qui sont dangereux avec tout ce qu'on peut faire sur Internet aujourd'hui.
On n'a pas encore les émotions, les réactions au stress et donc l'adaptation. On entendait au début de cette émission un extrait du film Her de Spike Jonze avec la voix en anglais, en tout cas, de Scarlett Johansson qui est un programme d'intelligence artificielle. Et elle disait à la fin, oui, depuis quelque temps, je ressens des choses, j'éprouve des émotions et j'arrive pas à les mettre en mots, donc je suis frustrée. Yann Lequin, on n'y est pas encore à ça. Quoique, vous avez récemment dévoilé un nouveau programme, Jepa, qui est un nouvel agent conversationnel, je ne sais pas sous votre contrôle, hein, mais lui, il est capable de raisonner et de planifier des tâches. Donc, on a encore progressé depuis ChatGPT.
Oui, alors, en fait, je suis absolument d'accord avec ce que disait Joshua sur...
Ne vous inquiétez pas, vous allez être pas d'accord dans quelques secondes.
voilà. Mais sur ce qui manque... Ouais. Effectivement, ce qui manque à ChatGPT et ce sur quoi on travaille aussi bien Yoshua que moi, ce sont des systèmes qui seraient capables de raisonner et de planifier. C'est à mon avis ce qui manque justement pour permettre aux machines d'agir dans le monde. C'est une des deux choses qui manquent. L'autre chose qui manque, c'est la capacité pour les machines de comprendre comment fonctionne le monde. Parce que si on veut planifier une séquence d'actions pour arriver à un but, il faut avoir un modèle du monde qui nous permet d'imaginer le résultat ou l'effet de nos actions. Si, par exemple, vous pouvez imaginer que s'il y a un verre sur la table, si je pousse sur le verre à la base, il va probablement bouger, mais si je pousse en haut, il va probablement basculer. On a tous un modèle de la physique intuitive du monde qui nous permet en fait de planifier à l'avance quelle séquence d'actions effectuer pour aboutir à un résultat particulier. Alors, Jepar, en fait, c'est une idée pour justement construire des modèles du monde de ce type-là. Mais ensuite, il faudra les utiliser avec des buts, c'est-à-dire qu'il faut que la machine ait des buts à remplir pour planifier ses actions. Et si la machine a des buts, elle doit pouvoir prédire si ces buts vont être remplis ou pas. Et ça va donner à ces machines des émotions. Alors, ça n'existe pas encore, mais ça va venir. Donc, à mon avis, si on a des machines qui puissent planifier à l'avance leurs actions, imaginer le résultat des séquences de leurs actions et qui ont des buts à satisfaire, elles vont avoir des émotions inévitablement. Et c'est probablement ça qui nous permettra de les rendre pilotables, c'est-à-dire compatibles avec nous, avec l'humanité.
Alors que c'est ça qui fait peur avant tout, c'est sans doute la perte de contrôle de ces machines par rapport à l'humain. Venons-en donc à vos divergences, à vos désaccords à tous les deux. dans les peurs, je l'ai rappelé au début, dans les fantasmes peut-être, il y a surtout des fantasmes de l'ordre de la perte, hein, perte donc de contrôle, mais perte de la vérité, des emplois, du sens même de l'humanité. Est-ce que c'est toutes ces raisons-là, Yoshua Benjo, qui vous a conduit, vous, à signer cet appel de plusieurs milliers de personnalités et de chercheurs, un appel pour un moratoire sur le développement des applications d'intelligence artificielle comme ChatGPT, il y a quelques mois? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, selon vous, c'est dangereux, pourquoi, selon vous, il faut faire une pause?
Oui, donc c'est effectivement pour ces raisons, mais plus généralement, même on peut s'extraire de la question spécifique de l'intelligence artificielle. Nous, les êtres humains, on est des experts à construire des outils, et dans l'histoire, on a construit des outils de plus en plus puissants. Un outil peut être utilisé de manière bénéfique, mais plus il est puissant, plus son pouvoir peut être aussi utilisé de manière dangereuse. Et ce qui m'inquiète le plus, effectivement, c'est qu'on est en train de développer des outils qui vont éventuellement être plus puissants que nous, plus capables intellectuellement que nous. Et maintenant, pourquoi ça m'inquiète? Là où le danger est le plus grand, c'est si ça nous amène à un endroit où on développe des intelligences artificielles qui ont comme but principal leur survie, leur autopréservation. Pour moi, ça, c'est la caractéristique fondamentale d'un être vivant. Et à ce moment-là, on serait face à une nouvelle espèce sur la planète qui pourrait être plus intelligente que nous, auquel cas on aurait peut-être perdu le contrôle sur notre avenir. Ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. En même temps, comme je disais au début, il y a beaucoup d'incertitudes sur comment ce genre de scénario peuvent arriver. J'ai réfléchi à beaucoup de choses. Je pourrais en parler. Yann et moi, on n'est pas nécessairement d'accord sur ces détails-là qui sont très importants. Et ma proposition, ma demande finalement, c'est que globalement, la société investisse beaucoup plus pour mieux comprendre ces risques, de façon à essayer de les éviter, parce que l'ampleur, l'enjeu est tellement grand qu'on doit y porter attention.
Alors que vous, Yann Le Cun, vous pensez que finalement, non, il n'y a pas tant de risques que ça, que c'est pas parce que la machine sera puissante qu'elle sera nécessairement dangereuse. Vous êtes plutôt confiant, vous dites même que l'IA, c'est pas le problème mais la solution, qu'on est peut-être même face à un nouveau siècle des Lumières. Donc là, on est radicalement dans l'autre sens.
Radicalement dans l'autre sens. Oui, je pense qu'effectivement, l'intelligence est probablement la commodité dont on a le plus besoin dans le monde, qui pourrait nous aider à résoudre tous les problèmes auxquels on fait face. Et une technologie dont le but est d'amplifier l'intelligence humaine ne peut être que bonne, bien sûr, quand elle est bien utilisée.
Alors, qu'est-ce qui va faire qu'elle va être bien utilisée par tout le monde, Yann?
Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement dire que les dangers que mentionne Yoshua n'existent pas, mais ils ont tous des solutions. Des solutions qui n'existent pas nécessairement encore, mais au même titre que en 1930, on n'imaginait pas de solution à, par exemple, rendre les trajets transatlantiques en avion complètement fiables. Personne n'avait encore jamais traversé l'Atlantique, en fait, juste une personne, Lindbergh. On ne pouvait pas imaginer comment faire le design d'un réacteur, par exemple, pour qu'il soit incroyablement fiable. Donc, de la même manière, comme on n'a pas encore inventé des machines intelligentes aujourd'hui, on ne peut pas imaginer comment les rendre complètement sécurisées. Et c'est un problème d'engineering, en fait, qui va prendre du temps, qui va prendre de l'itération, pour lequel il n'y aura pas de solution miracle.
Mais vous dites que c'est le but, c'est d'amplifier l'intelligence humaine. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait dire que le but, c'est d'amplifier l'intelligence humaine? Est-ce que le but n'est pas tout simplement d'amplifier l'intelligence artificielle?
Non, parce que c'est ce que la société demande. Imaginez un futur dans une dizaine d'années peut-être 20 ans, hein, peut-être plus, on ne sait pas encore, ça va dépendre un petit peu de la vitesse des progrès, mais dans lequel nos interactions sont avec le monde numérique sont toutes faites par l'intermédiaire d'un assistant intelligent. Donc un peu à la manière du film Her de Spike Jonze, qui a maintenant 10 ans, dans lequel on est assisté par un ou plusieurs systèmes intelligents dans notre vie de tous les jours, qui nous apprennent des choses nouvelles, qui nous aident dans notre vie de tous les jours, qui nous assistent. C'est comme si chacun d'entre nous était le directeur d'une entreprise ou d'une équipe de gens qui étaient plus intelligents que nous. Et ça, il ne faut pas en avoir peur. En ce qui me concerne, j'essaie de n'embaucher que des gens qui sont plus intelligents que moi pour travailler avec moi. C'est la meilleure manière d'avoir du succès. Donc voilà, il faut pas non plus, effectivement, il faudra pas faire des choses un peu bêtes comme faire des machines qui nécessairement ont un instinct de survie qui domine toutes leurs autres pulsions.
Yoshua Benjo.
Il va y avoir quelqu'un qui va le faire.
Oui, mais ils seront
attendez,
pas.
Attendez, on va laisser parler Yoshua Benjo.
Oui, moi, ce qui m'inquiète, c'est que Yann pense que tout va bien aller, mais je pense que même si la majorité des êtres humains ont des bonnes intentions et sont relativement sages, il y a toujours une minorité de gens qui vont faire des choses horribles. On a eu des génocides. Si les armes sont disponibles dans les magasins aux États-Unis, ben ça donne des massacres. Donc, il va y avoir des gens, si on leur donne accès à dans la possibilité de donner des buts à ces IA qui serait dangereux pour les autres, pour l'humanité, ça va arriver. Donc, il faut qu'on réfléchisse à ça, qu'on comprenne comment ça peut arriver et qu'on mette en place des mesures avant qu'il soit trop tard, pas quand on sera arrivé là.
Qu'est-ce qui pourrait faire basculer Yoshua Benjo, et ça sera ma dernière question pour vous, qu'est-ce qui pourrait faire basculer les choses dans un sens ou dans l'autre? Autrement dit, comment s'assurer que l'humain garde le contrôle et qu'il reste le patron et que l'usage, parce que c'est une question d'usage, hein, c'est toujours une question d'usage avec les technologies, ça dépend ce que nous, humains, en ferons. Presque le danger, c'est nous, en fait. C'est plus nous que les intelligences artificielles.
C'est complètement nous, le danger. Oui. Le plus important, c'est d'investir au moins autant, comme le dit notre collègue Jeff Hinton, dans la sécurité, c'est-à-dire dans la protection du public, dans la compréhension de ce qui peut mal aller, dans les manières d'aligner les comportements des IA avec nos réels objectifs, ce qui se trouve être un problème fondamental, par exemple, qui a été donné lieu au dernier prix Nobel récent d'économie, d'investir pour éviter ces catastrophes, alors qu'aujourd'hui, parce que c'est la pression de la maximisation du profit, presque tous les investissements vont vers améliorer les capacités cognitives des IA, ce qui est certainement a des applications importantes, mais sans qu'on mette en place des garde-fous. Et la recherche scientifique, la recherche aussi au niveau législatif, au niveau de la gouvernance qui devrait être nécessaire pour contrôler ces risques.
Merci beaucoup, Yoshua Benjo, d'avoir participé à cette première partie du débat et d'avoir posé avec nous et avec Yann Lequin ces termes du débat. On va continuer sans vous, mais vous avez le droit d'écouter. C'est retransmis en direct, vous êtes sur Internet, je pense, sans problème, sur le numérique. Merci, merci encore d'avoir participé.
J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire.
Là, on remontait en 1982 avec le film Blade Runner. On continue cette discussion. Comment dépasser la guerre des intelligences? Nous ont rejoint ici, dans la cour du rectorat de Montpellier, deux autres invités, aux côtés de Yann Lequin. Patrick Pérez, bonjour, bonsoir.
Bonsoir, merci vous êtes, pour l'invitation.
Merci d'être venu à vous. Vous êtes le directeur de l'intelligence artificielle à Valeo. Valeo, c'est un équipementier automobile. Vous êtes le directeur scientifique de Valeo.ai, le centre mondial de recherche consacré à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage profond dans les applications automobiles. Et à vos côtés se trouve Anna Lombert. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à l'Université Paris 8. Vous êtes spécialiste des enjeux anthropologiques des transformations technologiques contemporaines. Donc, en quelque sorte, vous intéressez à ce qui fait le lien ou la non-relation entre la vie de l'esprit et la vie technique. Vous êtes également membre du Conseil national du numérique, le CNUM. Et vous avez écrit en 2023 « Schizophrénie numérique » chez Alia. Ben, je vais vous poser la première question. Est-ce que ce débat entre Yann Lequin et Yoshua Benjo aujourd'hui illustre bien ce que vous appelez la schizophrénie numérique dans votre ouvrage?
Alors, dans une certaine mesure, oui, mais disons que ce que j'entendais par schizophrénie numérique dans le livre, c'était quelque chose d'un peu plus, d'un peu différent, disons. C'était en fait une espèce de tiraillement de notre époque. Donc, je parlais d'une schizophrénie épocale, d'une schizophrénie collective. Donc, un tiraillement, en fait, des discours au sujet du numérique. entre deux positions, deux positions contraires. Donc, d'une part, en fait, des discours qui tendent à attribuer aux machines ou aux dispositifs numériques toutes sortes de capacités traditionnellement attribuées aux humains. Donc, on en a parlé tout à l'heure, l'intelligence, l'apprentissage, la conscience, les émotions, etc. Ça, c'est un premier type de discours. Et puis, d'autre part, un autre type de discours qui tend, au contraire, en fait, à montrer que ces dispositifs numériques, en tout cas certains d'entre eux, tendent à menacer les capacités précisément qu'on leur attribuait, c'est-à-dire les capacités de mémoire, les capacités de réflexion, les capacités, de raisonnement, d'anticipation des humains eux-mêmes. Donc, en effet, ça fait quelques années qu'il y a des études qui montrent que, par exemple, la surexposition aux écrans peut être dangereuse pour le développement psychique des enfants, pour l'acquisition du langage. D'autres se posent des questions, par exemple, sur ChatGPT dont on vient de parler, des questions au sujet de, finalement, l'idée qu'on est en train de déléguer nos capacités d'écrire, nos capacités de parler à des automates computationnels, qu'on appelle parfois des intelligences artificielles. Mais moi, je crois qu'il faut changer un petit peu ce vocabulaire, parce que, disons que ces discours anthropomorphiques au sujet des machines nous empêchent parfois de penser les effets de ces machines sur nous.
C'est le problème, le mot intelligence, Patrick Pérez, vous êtes d'accord ?
Alors, je suis d'accord que le problème, ou ça peut être un problème, la terminologie intelligence artificielle, donc je vais embrayer avec machine également, parce que ça fait d'abord penser que ces machines sont essentiellement dotées par ces technologies-là de capacités typiquement humaines, ou capacités à résoudre des tâches typiquement cognitives, là où en fait elles font bien d'autres choses, et pour celles qui relèvent de l'humain, elles peuvent les faire différemment, parfois beaucoup mieux, mais différemment, et parfois beaucoup plus mal. Donc je prends tout de suite l'exemple de la voiture, puisque ça a été évoqué par Yann Lequin.
Et c'est ce dont vous vous occupez.
Voilà.
La voiture autonome.
Les voitures autonomes, savent-elles conduire ou pas ? Alors il se trouve qu'il y a déjà des services de robotaxi aux États-Unis, donc vraiment des voitures sans chauffeur. Elles savent conduire d'une certaine façon, à savoir dans une zone géographique délimitée, parfaitement connue, et elles ont été donc conçues pour opérer dans ce domaine-là. Elles conduisent différemment des humains. Elles ne fatiguent pas, elles sont pas en état d'ébriété, elles voient à 360 degrés, mais par ailleurs, elles continuent à ne pas comprendre des choses élémentaires que le conducteur humain va comprendre, donc c'est assez complémentaire. Donc, je pense que le mot intelligence artificielle, maintenant, il nous colle comme un sparadrap à la discipline. Il s'avère que, il y a une vingtaine d'années, les gens dans la discipline n'étaient pas très friands de cette terminologie et voulaient pas voulait s'en défaire plutôt. Maintenant, elle est là dans les médias et dans le public et on va faire avec.
Yann Lequin.
Oui, alors c'est vrai que l'intelligence artificielle nous permet de déléguer, pas seulement, mais la technologie de manière générale nous permet de déléguer certaines fonctions. C'est un peu général dans l'histoire de la technologie, c'est pas spécifique à l'intelligence artificielle. Si je crois être correct, Socrate avait même critiqué l'existence de l'écriture, disant que ça allait rendre les gens beaucoup moins capables de se rappeler des choses et d'argumenter. Leur mémoire allait s'amenuiser. On a entendu le même genre d'argument aussi au moment de l'apparition des calculatrices, que les enfants n'allaient plus savoir faire du calcul mental, etc. Et puis aussi les ordinateurs qui allaient nous assister, etc. Donc la progression de la technologie, effectivement, nous rend... nous donne la possibilité de déléguer tout un tas de tâches qu'on considérait auparavant comme étant le propre de l'humain.
Ce qui veut dire, c'est que en fait, la question de savoir si l'humanité va être dépassée par l'IA est pour vous une question presque absurde.
C'est une question, d'abord, une question dont la réponse ne fait aucun doute. Il ne fait aucun doute, et je vous le dis très clairement, à terme, dans les décennies qui vont venir, il y aura des machines qui seront plus intelligentes que les humains dans tous les domaines où les humains sont intelligents. Ça ne fait aucun doute. Maintenant, ces machines n'auront très certainement pas les mêmes motivations que les humains. C'est-à-dire, beaucoup des motivations qu'on attribue aux humains font partie de la nature humaine à cause du fait que nous sommes une espèce sociale et que la nature a construit en nous des volontés, par exemple, de dominance ou soumission, d'accès aux ressources, etc., d'économie de ressources, instinct de survie et autres. Il n'y a aucune raison que les machines qu'on construise dans le futur aient aucune de ces pulsions. Elles seront soumises à l'humanité. donc une amplification de l'intelligence humaine.
Et donc c'est après que vient la peur, et là je vais m'adresser à la philosophe Anna Lombert, puisque la peur a toujours accompagné le changement technologique et la nouveauté, donc l'inconnu fait qu'on a toujours peur de cet inconnu, mais est-ce que vous êtes plutôt de ceux ou de celles qui pensent qu'on est face à une dépossession ou un risque de dépossession de soi, dépossession de son travail, dépossession même de ses capacités humaines, ou est-ce que, je ne sais pas, je reprends l'exemple du film de Spike Jonze, ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le voir, parce que c'est un film vraiment intéressant, surtout aujourd'hui, 10 ans après, à la fin de ce film, je fais un peu de spoiling, pardon, mais à la fin de ce film, elle le délaisse, en fait. Elle se désintéresse de l'humain, donc elle prend pas le contrôle de lui. Juste, elle l'abandonne à son triste sort, et l'humain va être de son côté, et elle d'un autre côté. Donc, comment vous voyez les choses, comment vous analysez avec le recul qui est le vôtre ?
C'est compliqué d'être synthétique sur ces sujets, mais disons que moi, voilà, je peux m'intéresser à certaines fictions dans lesquelles les machines sont anthropomorphisées, si vous voulez. Mais je pense que quand on réfléchit rationnellement à ces questions, il faut éviter absolument toute anthropomorphisation. Ce sont des projections, hein, de même que lorsque vous voyez un tableau, par exemple, vous ne vous interrogez pas sur les intentions ou les émotions du personnage qui est représenté dans le tableau. Eh bien, de même, il faut éviter de projeter, si vous voulez, une intériorité, on va dire, sur des dispositifs qui sont en fait des dispositifs électroniques, mécaniques. Hein. On parle en fait de microprocesseurs, de semi-conducteurs, de câbles sous-marins, de satellites, etc. C'est de ça qu'on parle. Hein. On parle pas d'un espèce d'esprit, vous voyez.
Il n'y a pas des trucs humains dans les recherches en intelligence artificielle.
Disons que, si vous voulez, il y a aussi évidemment la couche logicielle, c'est-à-dire tous les algorithmes, tous les calculs extrêmement complexes qui ont été développés pour effectuer, en fait, ce sont des fonctions mathématiques, des opérations mathématiques, et ça, c'est extrêmement intéressant de les comprendre. Moi, j'essaye de les comprendre, même si c'est très difficile. Mais encore une fois, il n'y a pas d'émotion d'intériorité, et la question, c'est se demander à chaque fois quelles sont les capacités, comme le disait Yann Lequin, quelles sont les capacités qu'on nous avons déléguées à ces dispositifs, et sommes-nous avons-nous les possibilités de les réintérioriser pour ne pas se trouver en fait automatisé voilà.
De ne pas se retrouver automatisé et que notre pensée ne le soit pas non plus. Patrick Pérez, vous avez une expérience assez riche, c'est-à-dire qu'avant de travailler sur la voiture autonome, si je ne m'abuse, vous avez travaillé dans l'imagerie médicale. L'imagerie médicale, c'est quand même une voie très encourageante. Pour rejoindre là le point de vue de Yann Lequin, c'est dans la troisième voie possible entre l'optimisme et l'agnosticisme, a-t-il préféré dire, hein, Yosha Benjo. L'imagerie médicale, vous avez travaillé pendant 5 ans à l'INRIA sur l'imagerie médicale, c'est vraiment un outil dont le but est d'aider les humains à guérir les humains d'une certaine façon. Donc tout est aussi une question peut-être d'endroit, de secteur de la société, d'usage, de façon dont on va s'en servir.
En effet, c'était un des sujets d'application quand je travaillais à l'INRIA. Alors assez ironiquement, c'était en plus de l'imagerie cérébrale, donc ça parlait du cerveau. Et c'est évidemment un des champs, alors la médecine, l'imagerie médicale, la découverte des médicaments, etc., pour lesquels j'espère personne s'inquiète des apports d'intelligence artificielle, et je pense qu'il va y avoir des progrès majeurs dans les années à venir. J'aimerais que ça aille encore plus vite, mais c'est sûr que c'est un exemple typique où les outils sont là vraiment pour démultiplier les capacités des experts, les soulager par ailleurs de tâches qui peuvent être automatisées, qui sont peut-être moins gratifiante ou coûteuse en temps, et à tout prendre, je pense vraiment que l'IA, dans le cadre du médical, va être une source considérable de progrès.
Comment, pour vous, sortir de cette schizophrénie numérique dont parlait Anna Lombert, et vous avez lu son livre, qui plus est, mais comment redonner un peu d'espoir, même si on a entendu Yann Lequin, on a aussi entendu Yosha Benjo, et pour l'instant, on ne sait pas bien dans quelle direction nous allons. C'est un peu le problème, d'ailleurs. Et encore une fois, c'est ce que les humains que nous sommes vont faire de ces technologies qui va déterminer notre avenir. Donc, comment sortir, là, je m'adresse à vous d'abord, Anna Lombert, comment, pour vous, trouver une voie de sortie, une issue possible ? Est-ce que c'est dans ce que disait Yosha Benjo, c'est-à-dire un investissement indifférent ? Je poserai évidemment la question à Patrick Pérez et à Yann Lequin ensuite. Est-ce que c'est dans une notion d'éthique, un temps de réflexion ? Pour l'instant, la pétition sur le moratoire, je crois qu'elle n'a rien donné, hein, mais bon, on peut toujours espérer. Anna Lambert.
Non, pour moi, la véritable question, c'est comment faire en sorte que ce qu'on appelle aujourd'hui des intelligences artificielles et qui sont en fait des algorithmes et notamment des calculs statistiques sur des quantités massives de données, comment faire en sorte que ces algorithmes et ces calculs statistiques sur des quantités massives de données soient mis au service de l'intelligence collective et ne soient pas utilisés pour remplacer, pour simuler ou pour imiter des comportements humains. Parce que je crois que c'est pas du tout ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin en fait de faire du numérique un support de mémoire et de partage de savoir. Et il est tout à fait possible d'utiliser ces technologies pour augmenter justement les facultés de délibération, les facultés de débat, de controverse, les facultés d'interprétation humaine. Mais pour ça, il faut ouvrir ces systèmes et laisser les humains, j'ai envie de dire, partager leur savoir grâce à ces technologies numériques. Il ne faut pas utiliser ces technologies pour remplacer ou simuler des comportements humains, parce que dans ce cas-là, on remplace ce qui relève de l'interprétation et de l'invention par des systèmes de calcul automatisés qui, en fait, ne produisent toujours que le plus probable, si vous voulez. Et c'est très dangereux de remplacer l'invention et l'interprétation humaine par des calculs statistiques et probabilistes. Donc je crois qu'il faut vraiment s'intéresser à des systèmes qui permettent d'agencer, si vous voulez, ces deux dimensions. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, pour moi, c'est ça l'avenir de ces technologies.
Yann Lequin, Patrick Pérez. Yann Lequin.
Il y a une chose sur laquelle on est tout à fait d'accord, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que fournir des technologies qui soient ouvertes, partageables, etc. Ça, c'est quelque chose dont je me suis fait l'avocat depuis très longtemps, et dont Meta aussi s'est fait l'avocat. C'est-à-dire que toutes les recherches qu'on fait sont publiées, les codes sont open source, ils sont partagés avec le reste de la communauté. Et on assiste en ce moment à un mouvement un petit peu contraire, c'est-à-dire de la part d'autres acteurs industriels qui commencent à se fermer un petit peu comme des huîtres parce que les intérêts économiques sont un peu différents de ce qu'ils étaient dans le passé. Donc ça, c'est pas une tendance qui me réjouit du tout. Mais je pense que en fait la communauté, le marché, les gouvernements même, en fait, pousseront pour des plateformes ouvertes dans le futur.
Et ça change quoi d'ouvrir les systèmes ?
Ça fait qu'ils sont transparents. Donc, imaginez par exemple le futur dont je vous parlais précédemment, dans lequel toutes nos interactions.
Le futur joyeux que vous nous promettez.
Joyeux ou pas, mais dans lequel toutes nos interactions se font par l'intermédiaire d'un agent intelligent. Imaginez, donc vous allez confier tous vos secrets personnels à cet agent intelligent, ça va être votre meilleur ami en fait, d'une certaine manière. Et on n'a pas les technologies aujourd'hui pour ça, hein, mais c'est un futur dans quelques années ou décennies. Si la technologie sous-jacente et la culture, en fait, ces systèmes seront le dépositaire de toute la connaissance humaine. Cette connaissance est prisonnière d'une entreprise, disons, sur la côte ouest des États-Unis, c'est un petit peu dangereux parce que cette entreprise aura une énorme influence potentielle sur l'opinion publique, sur la culture, sur beaucoup de courants culturels. Donc, pour la santé de la société, il faut que cette technologie soit ouverte, qu'il y ait une base open source, qu'au-dessus, il y ait des produits commerciaux, c'est bien, mais qu'elle soit ouverte. Par contre, il y a quelque chose sur lequel je suis absolument pas d'accord avec vous.
Le « vous » étant Anna Lambert.
Anna Lambert.
Pour les auditeurs.
C'est le fait que, oui, certes, ces systèmes, à l'heure actuelle, en fait, font des milliards de multiplications et d'additions et de comparaisons. C'est très, très simple au niveau algorithmique, si on veut parler d'algorithme. Ce qui fait leur complexité, en fait, c'est ce qu'ils sont capables d'apprendre. Ils sont effectivement entraînés pour faire des prévisions statistiques à l'heure actuelle. Mais d'une certaine manière, on peut dire la même chose de notre cerveau. On peut le réduire à des opérations biochimiques. Donc à un bas niveau, de toute façon, ce sont des opérations relativement simples. Le cerveau est une machine, les machines sont des machines. Il n'y a aucune raison de penser, comme je l'ai dit précédemment, qu'avec les machines, dans un futur plus ou moins proche, on n'aura pas des machines qui auront toutes les caractéristiques intelligentes des humains ou des animaux. Elles n'en ont pas à l'heure actuelle, c'est vrai. Il ne faut pas faire cette confusion. On en est encore très loin, mais il ne fait aucun doute que ça va arriver, vraiment aucun doute.
Anna Lambert ?
Bah moi, pour le coup, c'est vrai que là, c'est le point sur lequel, effectivement, on n'est pas du tout d'accord. Moi, je pense que c'est par définition impossible, en fait. Parce que le cerveau, si vous voulez, Je ne crois pas du tout que ce soit une machine. Le cerveau, c'est une partie d'un organisme. Et un organisme, ce n'est pas une machine. Un organisme vivant, c'est un tout qui n'est pas réductible à la somme de ses parties. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous ne fabriquez pas un organisme vivant en assemblant différentes parties qui lui préexistent, si vous voulez. L'organisme, il se forme par différenciation. Bref, ça n'a rien à voir avec une machine. Et par ailleurs, la matière, la matérialité, si vous voulez, de l'organisme, c'est des structures organiques. Donc c'est pas des structures inorganiques ou inertes comme ce qu'on appelle aujourd'hui les machines, mais en fait même le terme de machine n'est plus vraiment adéquat parce que là on a des réseaux en réalité, hein. Le numérique c'est quand même des réseaux, je veux dire c'est des terminaux, donc les téléphones portables, ce sont des satellites, ce sont des plateformes, ce sont des data centers. Donc parler de machine en fait c'est un peu ambigu. Mais bon, effectivement, c'est un grand débat, mais je crois que, enfin, pour moi en tout cas, ce qui est très important, si vous voulez, c'est pas tant ce débat-là que la différence, et je m'arrête là-dessus, entre le calcul, d'une part, et l'interprétation, d'autre part. Et je crois que l'interprétation, c'est le propre du vivant, non pas de l'humain, mais du vivant. Vivre, c'est interpréter dans un contexte, dans une situation, c'est se transformer en interprétant la situation, et ça, ce n'est pas mécanisable, ce n'est pas programmable, parce que c'est une invention constante, si vous voulez. Donc, je crois que l'interprétation n'est pas réductible au calcul. Moi, c'est comme ça que je pose plutôt les problèmes. Et peut-être que là-dessus, vous serez plutôt d'accord.
Et Lucas n'est pas d'accord.
Non, je suis absolument pas d'accord. Absolument tout est réductible au calcul. En fait, d'un point de vue théorique, il n'y a que deux sortes de calculs qui existent, le calcul classique et le calcul quantique. Il n'y a aucune raison de penser que le cerveau, en fait, utilise du calcul quantique, donc c'est plutôt du calcul classique. Et la théorie nous dit qu'on peut simuler n'importe quel ordinateur sur n'importe quel ordinateur. Enfin, un ordinateur générique peut simuler n'importe quel autre. Donc, il y a rien. Enfin, à moins que vous croyiez à des choses un petit peu mystiques, à l'âme ou quelque chose comme ça, mais c'est pas le cas.
C'est pas le cas.
Donc, le débat de savoir si, l'esprit tel qu'on l'entend est simulable, n'existe plus parmi les scientifiques.
Alors on va laisser Patrick Pérez s'exprimer quand même. Patrick Pérez.
Pour dire des choses très très pratiques, pour le coup, dans l'état actuel des technologies et de l'IA, je pense que c'est malgré tout important de noter les limites de ces fonctions mathématiques, ce qui ne veut pas dire qu'elles vont pas être levées. Yann LeCun a déjà mentionné certaines, le fait de planifier, de raisonner, etc. Mais il y en a même qui vraiment les différencient pour l'instant de nous humains, c'est que ces machines ont beaucoup de mal à douter. C'est le problème de l'estimation d'incertitude. Elles ont beaucoup de mal à s'expliquer sur les décisions qu'elles ont prises. Elles résistent assez mal aux perturbations imprévues. C'est le problème de la robustesse. Et lié à ça, elles ont beaucoup de mal à improviser dans des conditions nouvelles qu'elles n'ont pas rencontrées à l'apprentissage. Donc c'est des limitations qui sont des sujets de recherche à part entière et qui sont cruciaux pour les applications en particulier critiques de l'IA. Ça progressera très vite, mais je pense que c'est important de dire qu'elle différencie pour l'instant ces intelligences artificielles de la nôtre.
Juste une dernière question à vous, Patrick Pérez, parce qu'on ne vous a pas entendu sur la question posée par Anna Lombert tout à l'heure. Comment mettre les technologies numériques au service de l'intelligence collective ou de l'intérêt général ? Vous avez une double expérience, hein, dans la recherche publique et dans les laboratoires privés. Est-ce qu'une solution serait, comme le disait Joshua Benjo, d'investir, mais pas seulement d'investir dans le privé, d'investir beaucoup plus dans la recherche publique ? Et pas seulement d'ouvrir les systèmes, mais aussi d'investir pour que la recherche publique ne soit pas au profit, un simple profit, le gain ne soit pas juste la part. Vous avez compris ma question.
Je pense que, en effet, je pense que c'est indispensable de permettre des allers-retours entre ces deux mondes est indispensable, que collectivement, enfin, c'est vraiment des choix de société, quels sont les sujets ou les applications principales dans lesquelles on veut investir. La France lance son nouveau plan IA, donc c'est important d'y contribuer. Je pense que c'est de la responsabilité également des chercheurs, qu'ils soient privés, dans le privé, dans le public, d'informer, de vulgariser aussi pour que les décideurs, les financeurs, les citoyens sachent ce que l'IA est et n'est pas, peut et, ou ne peut pas faire et qu'on collectivement décide de là où on veut pousser le progrès.
Merci beaucoup Patrick Pérez, merci Anna Lombert et merci Yann LeCun. Ces rencontres de Pétrarque ont été préparées par Roxane Poulain, réalisées par Nathalie Salle. Merci aux équipes du festival et à celles de Radio France, Sandrine Bréchaud, Thomas Robin, Benoît Tétu, Jean-Michel Manière et Mathieu Leroy. On se retrouve demain pour parler de ce que peuvent nous apprendre les autres êtres vivants. Dans une minute, c'est Arnaud Laporte et Affaires culturelles.